La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet.
Chers amis auditeurs de Radio Caraïbes Nancy, bonjour. Bonjour à Thomas.
Bonjour Christian.
Et à Sylvie. Alors Thomas, c'est le directeur de RCN. Quel plaisir.
Partagé.
Je vous rappelle que la cuisine buissonnière, c'est tous les mardis de midi à midi et demi sur 90.7 modulation de fréquence ou sur www.rcn-radio.org si vous n'êtes pas dans le réseau d'audition de Nancy. Merci aux auditeurs du bout du monde qui nous écoutent en Océanie, à Madagascar et en République démocratique du Congo. J'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient avoir des recettes particulières de le signaler sur ma page Facebook Cuisine à moi ou bien sur la page podcast de l'émission Cuisine buissonnière sur le site de RCN. Donc je vous rappelle que c'est www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet ou de la réaction de Maillard. C'est quelque chose que vous vivez tous les jours sans le savoir, mais que beaucoup ignorent. Pour les recettes, je vous proposerai aujourd'hui la recette des encornets en persillade. Après la pause musicale que nous aurons avec Léo Ferré, vous aurez le droit à ma recette des escargots au chaourz. Et puis un petit dessert à partager, le gâteau creusois aux noisettes. Alors, l'effet Maillard, qu'est-ce que c'est ?
Midi, midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN.
Tu as à tes côtés quand même quelqu'un que tu as oublié de présenter.
Ah, j'ai oublié de présenter Sylvie.
C'est la meilleure.
C'est pour ça que je t'ai mis un petit jingle pour que tu te rendes compte que t'as oublié quelque chose quand même.
On se regardait, j'étais mort de rire.
Donc tu as quand même à ta droite.
Ben, j'ai Sylvie. Sylvie qui est responsable de notre émission Citoyens au quotidien.
Voilà. Et qui t'accompagne et qui nous
qui m'accompagne aujourd'hui.
Donc, c'est quoi l'effet
Alors, l'effet Maillard, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Eh bien, est-ce que vous avez remarqué que plusieurs de nos recettes de cuisine concernant la cuisson de la viande débutent en mentionnant de saisir et faire colorer la viande dans une poêle à feu vif ? Pour l'exemple, mettez un steak dans une poêle bien chaude, à 3 minutes à peu près que vous l'ayez mis sur la poêle, que vous ayez mis la poêle sur le feu, pardon. C'est-à-dire quand vous voyez une espèce de sorte de vapeur au-dessus de la poêle, on le voit. Là, vous êtes à peu près là à une température proche de 140 degrés. Donc, vous mettez votre viande, la pièce de viande va commencer à bien cuire rapidement et voilà la réaction de Maillard qui va apparaître. La viande prend une belle couleur brune, dorée, grillée, qui a un goût unique et la texture presque caramélisée qu'on adore et dégage un délicieux arôme grillé. C'est ça l'effet Maillard.
Moi, je connaissais Colin Maillard. Là, c'est pas ça. C'est pas Colin Maillard.
Donc, c'est vraiment le principe, c'est ça, de faire dorer la viande.
Oui, c'est ça. Vous avez la même chose qui se passe avec du pain, avec des brioches. Ouais. C'est l'effet Maillard.
Et pour ça, il faut atteindre 140 degrés.
C'est pour la viande, c'est ça.
Ok.
Alors, cette coloration appelée réaction de Maillard se produit lorsque les protéines interagissent avec les sucres réducteurs de la viande au moment de la cuisson pour former de nouvelles molécules ou aux arômes grillés. Cette réaction permet de conférer plus de saveur et une texture bien tendre. Comment s'assurer de bien réussir la réaction de Maillard ? Eh bien, c'est pas difficile à atteindre, mais quelques embûches facilement évitables pourraient entraver la mission. Voici donc les trois principaux points à considérer pour réussir la dite réaction à tous les coups. Le premier point, c'est la chaleur.
Donc la chaleur de la poêle.
La chaleur de la poêle. Il est primordial de faire chauffer votre poêle à feu vif suffisamment longtemps avant d'y ajouter la viande. La réaction de Maillard peut se produire à basse température, mais pour qu'elle soit optimale, il faut être au-dessus de la température d'ébullition, c'est-à-dire 100 degrés, donc pratiquement à 140 degrés. Une fois qu'elle est enclenchée, vous pouvez réduire légèrement le feu pour éviter de brûler la protéine qui lui donnerait un goût amer.
D'accord.
Donc ça, c'est pour aller sur cet effet, enfin, cette réaction de Maillard, c'est pour que la viande ait meilleur goût aussi.
Exactement. Cet état appelé pyrolyse survient à partir de 180 degrés, soit quand la réaction de Maillard s'arrête. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de réaction de Maillard avec la viande cuite à l'étouffée ? Eh bien parce que la température maximale que l'on peut atteindre avec ce type de cuisson est d'environ 100 degrés.
D'accord, oui, donc on est très en dessous des 140 pour l'effet...
Voilà. Alors, à cause, alors, ces 100 degrés, là, c'est à cause de la présence de l'eau. Quand vous mettez...
Mais quand on, pour l'effet de Maillard, là, la poêle, elle est sèche.
Oui, c'est ça. Par contre, la friture permet d'obtenir une réaction de Maillard optimale, puisque c'est une cuisson dépourvue d'eau et à très haute température. De même avec un barbecue.
Oh, un barbecue. Oh,
bah oui,
c'est... Le deuxième point, il faut être patient. Il faut laisser le temps à la réaction de Maillard afin qu'elle se produise. Vous devez donc résister à la tentation de constamment remuer la viande pendant qu'elle cuit. Sinon, ses cellules se déchireront davantage et relâcheront plus de jus. La viande baignera alors dans de l'eau, dans du liquide, et se mettra à bouillir.
Donc on n'aura plus l'effet Maillard.
Il n'y aura plus l'effet Maillard. Il est toutefois possible de vérifier la cuisson de temps à autre, mais gardez en mémoire que l'aliment doit colorer. La viande résultante sera bien dorée et dégagera un délicieux arôme grillé. Ce qui compte aussi, ce sera la quantité. Si la poêle est surchargée de viande, des morceaux seront alors superposés et la température nécessaire pour déclencher la réaction de Maillard ne sera pas atteinte. La viande relâchera son jus et s'accumulera. Comme il n'y a pas assez d'espace pour entrer adéquatement en contact avec la surface chaude et ainsi permettre une évaporation rapide. Si vous n'avez pas de poêle suffisamment grande, il suffit de faire la cuisson en deux temps. Ce sera un peu plus long, mais définitivement mieux qu'une viande bouillie.
Et d'autant plus qu'on ne fait pas bouillir un steak.
Et justement, c'est exactement ça. C'est le but. Mais on le voit souvent, cette maladie mettre la viande et tout de suite ils y touchent. Et bien là, on arrête l'effet Maillard, le jus va se répandre et vous allez faire cuire de la viande. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de la semelle.
Ou de se dire, j'ai une grande poêle, il faut que je mette toutes mes viandes en même temps et pour qu'elles soient toutes à la même cuisson.
Absolument.
Et là, c'est une erreur.
Il est bon aussi de savoir qu'une marinade à base de citron ou de vin rendra très difficile la réaction de Maillard.
Parce que c'est plus humide.
Les viandes marinées doivent être bien séchées avant de les faire colorer, avant de les faire mijoter. Par contre, dans certains cas, il est bon de faire colorer la viande avant de la faire mariner. C'est-à-dire qu'on peut colorer la viande et après mettre dans la marinade. Si vous suivez bien ces conseils, une fois la viande retirée de la poêle, vous pourrez en prime déglacer cette dernière avec du vin ou du bouillon pour former une délicieuse sauce pleine de saveurs. Si vous avez aussi remarqué que la viande rouge grillée a un goût très différent de celui de la viande de volaille, cuite de la même façon, cela tient au fait que la viande rouge est riche en cystéine, qui est un acide aminé, qui est dans les premières phases de la réaction de Maillard, réagit déjà avec les glucides en formant des thiophènes et des thiazoles.
Alors là, ça rappelle la chimie, là. Ouais, ça rappelle quand on était
Mais c'est vrai que la cuisine, c'est de la chimie.
Mais c'est de la chimie, c'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est... ça devient des non-savants et on n'a plus l'impression de faire cuire un steak.
Exactement. Et Sylvie, tu connais bien, toi, la chimie, hein, parce que tu es tout le temps avec un chimiste, là.
De quoi ? Ah oui, avec qui intervient sur France 5.
Exactement. Donc il suffit de changer un seul acide aminé pour obtenir une saveur complètement différente. En conclusion, les règles d'or de la réaction de Maillard, la première...
C'est la température.
C'est la température.
La poêle.
Il est important que la viande soit sèche. Huilez bien la surface de la viande avant la cuisson.
Ah, bah oui, ça accélère, c'est ça les vapeurs.
Absolument. Pour finir, il faut savoir que même si le grill résiste à un excellent outil de cuisson, une bonne poêle en fer est tout aussi appropriée. Sa surface homogène permet de cuire de façon rapide et uniforme la viande. Alors,
c'est vrai que si on peut sur les poêles éviter le téflon, c'est pas mal.
Alors, quels sont les aliments qui sont concernés par la réaction de Maillard ? Eh bien, la réaction de Maillard s'applique aux aliments contenant des acides aminés. Tous les jours, vous consommez de tels aliments. Ainsi, la réaction de Maillard qui donne à la croûte de pain sa belle couleur dorée, elle entre également en jeu dans la fabrication des biscuits et dans la torréfaction du café. Et enfin, elle se produit sur la peau des volailles cuites au four pour lui donner sa couleur si appétissante.
Ça, c'est bon, la c'est peau de la délicieux. Volaille.
C'est super craquant.
C'est pas bon pour la santé. Hein, non, mais c'est pas grave. Mais on s'en fiche.
Oh là là. Donc voilà, maintenant, je vais vous proposer quelque chose d'intéressant. C'est une recette, les encornets en persillade.
Là, il n'y a pas l'effet de maillard avec les encornets en
persillade. Là, il n'y a pas.
Ah bon.
Alors,
je suis en train de réfléchir. Voilà. Je suis en train de me dire comment on fait l'effet de maillard avec l'encornet.
Non, bon. Là, c'est la recette.
Très bien. La recette du jour.
Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 800 grammes d'encornets ou de calamars en lamelles, un bouquet de persil plat, toujours du persil plat, 3 belles gousses d'ail violet, 5 centilitres de vin blanc sec, muscadet, sauvignon du Haut-Poitou, sauvignon, du vin de chez Tarin aussi, mais bon, là, on est en Charente-Maritime.
Oui, on est un peu loin ici, en Meurthe-et-Moselle.
Une belle noix de beurre, le jus d'un demi-citron, de l'huile d'olive, une petite pincée de fleur de sel de l'île Madame, Charente-Maritime, et puis du poivre du Moulin.
Excellent.
Alors, on va passer à la préparation. On va couper les lamelles d'encornets comme des tagliatelles ou perpendiculairement des petits tronçons de 4 mm d'épaisseur. On va laver et sécher le persil plat entre deux feuilles de papier absorbant. On va le ciseler, ce persil plat. C'est facile, hein, dans un verre avec des ciseaux. On va presser le citron.
Moi, c'est un truc que j'arrive pas à faire. C'est avec la paire de ciseaux, je préfère prendre les mettre sur
Et au couteau.
Ouais, et au couteau, j'arrive plus facilement qu'avec la paire de ciseaux.
Bah oui, mais c'est bien. Mais quand on a de l'arthrose, c'est pas mal.
Et ben moi aussi, j'ai de l'arthrose. Justement, j'arrive pas.
Ensuite, on va taper l'ail avec une casserole pour éclater les gousses. Couper le trognon et on va les peler. On va ôter les germes indigestes. On va hacher l'ail ou utiliser un pressail. Ça, c'est pratique, le pressail.
Hein. Ah oui.
Saisissez dans un filet d'huile d'olive les encornets pendant 2 minutes en remuant avec une cuillère en bois. Là, on les remue, là.
Ah ouais, il n'y a pas l'effet maillard.
Il n'est pas recherché, celui-là, donc on peut remuer.
Dans une casserole, on va faire revenir l'ail et le persil dans une petite noix de, dans une noix de beurre. Hein. On va ajouter maintenant les encornets, l'ail et le persil revenus dans la noix de beurre. On va poursuivre la cuisson très peu de temps, juste ce qu'il faut pour que tout soit homogène et que la persillade ne brûle pas. Il faut contrôler avec un couteau, on contrôle l'état dans lequel se trouve l'encornet, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il soit trop cuit, parce qu'il va devenir rigide.
Sec.
Et puis après, il va falloir cuire trop longtemps pour... voilà. On va déglacer avec le vin blanc. Alors quand je dis déglacer, c'est simplement mettre le vin blanc qu'on a là. Hein. On ajoute une petite cuillère à café de cognac. Si on a de l'Ixo, c'est encore mieux. Mais enfin bon, l'Ixo, c'est un peu cher quand même.
Hein. Ça fait un peu cher quand même pour mettre dans une recette de cuisine.
on va saler et poivrer. Oui, mais c'est tellement bon.
Oui.
On va dresser chaque assiette et on arrosera avec un filet de jus de citron. Donc on va servir. Vous pouvez augmenter la quantité de calamars si vous avez affaire à des gros mangeurs. Mais rappelez-vous que la cuisson des calamars doit être très courte. Sinon, ils se transforment en chewing-gum. Et je recommande aussi de garder un tout petit peu d'ail pressé pour mettre au dernier moment. Parce que quand on cuit, eh bien l'ail perd, ça s'évapore. Mmh. Et bien maintenant, je vais vous proposer d'écouter notre cher Léo Ferré qui va nous chanter « L'affiche rouge ».
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors je vais maintenant vous donner une recette qui me tient à cœur. Ce sont les escargots au chaourts. Chaourts, c'est pas bien loin, hein, dans la région de Troyes, hein, chaourts.
Mmh. Et les escargots.
Et les escargots.
Et ça, il y en a partout. Il suffit de regarder le fenêtre quand il pleut.
Oui, mais ça, je suis un malade des escargots.
C'est vrai.
C'est vrai que j'ai eu un restaurant qui s'appelait l'escargot de
Ah bah oui, absolument, ouais.
Alors, pour faire ces escargots au chaourts, il faudra, pour 4 personnes, 4 douzaines d'escargots.
Alors, tu les achètes où, tes escargots, et comment?
Alors, moi, d'habitude, j'achète mes escargots en boîte.
En boîte de conserve.
En boîte de conserve.
Conserve métallique.
Voilà, et parce qu'ils sont cuits, d'abord, mmh. Et puis ils sont disponibles. C'est vrai qu'on peut aussi les acheter chez des héliciculteurs qu'on peut connaître. Et ici, dans la région de Nancy, il y en a. Il faudra une gousse d'ail violet. Il faudra 400 g de champignons de Paris, 350 g de chaourts, 30 centilitres de crème liquide, 4 centilitres de vin blanc, une botte de persil plat, du beurre, du sel et du poivre.
Rien que d'en parler, ma diététicienne fait des bons.
Et en même temps, à mon avis, c'est pas pire que ceux qu'on va manger, enfin qu'on peut manger à Noël dans leur petite coquille avec le beurre d'escargot.
Alors, on va commencer par éplucher la gousse d'ail. En la tapant avec une casserole moyenne.
Moi, j'aime bien taper les gousses.
Ouais, ouais. La chemise va s'en aller toute seule. Coupez le pied de l'ail et jetez-le. Enlevez le germe indigeste. Toujours enlever cette espèce de geste de ce germe vert là qui. Hein. Lavez le persil plat et séchez-le entre deux feuilles de papier absorbant. Et là, on va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Hachez l'ail et 8 brins de persil, y compris les queues très finement coupées. Nettoyez les champignons de Paris, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec un couteau. Coupez les pieds terreux et jetez-les. Quand je dis éplucher, nettoyer les champignons, je vous interdis formellement de laver les champignons de Paris. Les champignons, ça absorbe la flotte et c'est pas bon.
Ça perd le goût.
Alors maintenant, vous allez faire revenir les champignons coupés en petits cubes avec un peu de beurre. Ajoutez les escargots dans le beurre. Puis, ajoutez en fin de cuisson l'ail et le persil haché. on va réaliser la sauce chaours. Pour cela, mixez le chaours, réservez 4 lamelles par exemple, avec la crème et le vin blanc, assaisonnez et goûtez, rectifiez si nécessaire. Disposez les champignons dans les cassolettes individuelles, recouvrez d'escargots, puis nappez avec la sauce au chaours. Déposez les lamelles de chaours sur chaque cassolette. Passez au four pour gratiner 10 à 15 minutes. Vérifiez de visu. Vous pouvez mettre 2 ou 3 gousses d'ail si vous préférez. Mais attention, le mélange avec le chaours peut être très fort. Il faut essayer et choisir suivant votre goût. On peut aussi saupoudrer très légèrement de piment d'Espelette avant d'enfourner. Pour accompagner ce plat, je vous recommande un petit chablis.
Midi, 12h30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
Eh bien, comme d'habitude, je vais vous proposer
Toujours du sucre à la fin d'un repas.
Un peu de dessert. Parce que vraiment, quand même. Alors, je vais vous proposer, et je crois de l'avoir déjà proposé, mais j'ai modifié entre-temps ma recette. Je vais vous proposer le gâteau creusois aux noisettes. Il vous faudra, je vois Thomas qui
vient,
parce que Thomas doit se rappeler qu'on a eu pour notre anniversaire, parce que son anniversaire et le mien, c'est le même jour.
Exactement.
Et je crois que j'avais fait un gâteau de creusois.
Exactement.
Donc il vous faudra 4 blancs d'œufs, 180 g de sucre semoule, 100 g de beurre mou, plus un tout petit peu pour le moule, 100 g de farine, 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de poudre de noisette, une pincée de sel. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va beurrer le moule à manquer avec un pinceau et vérifier à contre-jour s'il n'y a pas de manque de beurre. S'il y a un manque de beurre, il faut remettre un petit peu.
Faut pas oublier de remettre du beurre.
C'est
important.
Les Bretons diraient du beurre et encore du beurre.
Puis fariner le moule. On retourne le moule pour faire tomber l'excédent de farine. Dans un saladier ou un cul-de-poule, battez les blancs d'œufs avec le sucre semoule et une pincée de sel. Puis, incorporez le beurre mou, la farine, le sucre vanillé et la poudre de noisette. Mélangez bien au fouet ou au batteur. Vérifiez que votre four est bien à 180 degrés. Ce n'est pas parce qu'on a mis 180 degrés qu'il est à 180 degrés. Hein. Versez la préparation dans le moule et enfournez pour 25 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant une lame de couteau. Elle doit ressortir sèche. Démoulez sur une grille et laisser refroidir.
Est-ce qu'on démoule toujours à chaud ou est-ce qu'on attend qu'il refroidisse?
Non. Tout dépend de la pâtisserie.
D'accord.
C'est pas immuable, mais là vaut mieux attendre un petit peu.
D'abord, ça évite qu'on se brûle les mains.
Ouais, d'accord.
Aussi, ouais.
Mais vaut mieux attendre un tout petit peu. Mais on retourne et on retourne sur une grille et surtout laisser de l'air
Pour que ça devienne pas tout mou.
Voilà. Exactement. Ouais. Alors, notre émission, elle se termine maintenant. Vous pouvez réécouter à tout moment cette émission en allant sur www.rcn-radio.org. Cliquez sur émission/podcast où toutes les émissions de RCN vous sont proposées. Il vous suffit d'aller cliquer sur l'image de Cuisine Buissonnière pour avoir accès au podcast. Cela peut aussi vous permettre de découvrir d'autres émissions de RCN.
Et d'autres recettes.
Et d'autres recettes.
Absolument.
Cliquez sur les écouteurs au milieu et toute la liste des émissions titrées et datées apparaissent. Cliquez sur l'émission que vous avez envie d'écouter, sur la flèche au début de la ligne. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur l'émission ou tout autre commentaire en allant dans la fenêtre en dessous. Merci chers auditeurs et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.